Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est d'une infection bactérienne directement liée aux conditions de vie, au respect des règles d'hygiène, à la mise en place de politiques de prévention dont nous allons parler dans Priorité Santé. La fièvre typhoïde, elle tue encore près de 200 000 personnes chaque année, d'après les données de l'Institut Pasteur. 200 000 décès, mais 100 fois plus de contaminations dans le monde, essentiellement en Afrique, en Asie et dans certaines régions peu développées des Amériques et du Pacifique. La fièvre typhoïde, elle se combat d'abord en améliorant l'assainissement, l'hygiène, l'accès à la santé bien sûr et en développant la vaccination. Au cours de cette émission, nous verrons quelles sont les particularités de cette infection potentiellement mortelle, hein, faute de prise en charge par rapport à d'autres infections comme le paludisme ou le choléra. Quels symptômes permettent précisément de les distinguer? Quels vaccins existent et quels traitements sont efficaces pour lutter contre cette maladie de la pauvreté et de l'insalubrité? Et deux invités avec nous pour répondre aux questions très nombreuses des auditeurs de notre émission en studio. Professeur Philippe Sansonetti, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur émérite à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences. Également professeur titulaire de la chaire microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France. Auteur de nombreux ouvrages dont Vaccins au pluriel, publié chez Odile Jacob. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Burundi le professeur Théodore Nyongabo, professeur de médecine interne et maladies infectieuses à la faculté de médecine de Bujumbura et au CHU de Kamenge, toujours dans la capitale du Burundi. Et en fin d'émission, vous avez rendez-vous avec la chronique Sport et Santé du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité Santé sur RFI.
Alors, symptômes, prévention, prise en charge de la fièvre typhoïde. Professeur Philippe Sansonetti, on va essayer aujourd'hui d'en savoir plus sur cette infection bactérienne. Précisément, dans le cas de la typhoïde, quelle bactérie est en cause?
La bactérie en cause, c'est une bactérie d'une famille très commune, qui est la famille des entérobactéries, à laquelle appartient les colibacilles, par exemple. Donc, c'est salmonelle. Mais ce qui est très particulier avec la fièvre typhoïde, c'est que la salmonelle qui en est responsable, qu'on appelle salmonella typhi, pour simplifier, pour la typhoïde, est vraiment un pathogène spécifique de l'homme. C'est-à-dire que la fièvre typhoïde est une maladie de l'homme, elle n'existe pas chez d'autres animaux, ce qui pose d'ailleurs un problème expérimental pour essayer de la reproduire, essayer de mieux comprendre ses mécanismes. Mais donc cette salmonella typhi est associée spécifiquement à l'homme.
Maladie humaine, on disait tout à l'heure, encore des millions de personnes concernées hein, sur la planète tous les ans, pas dans les pays riches, on va dire, hein, pour simplifier. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on peut dire que la typhoïde, c'est une maladie de la pauvreté.
C'est une maladie de la pauvreté, comme toutes ces maladies du péril fécal qui sont liées, au fond, à l'absence d'infrastructures d'hygiène individuelle et collective. Oui, tout à fait, c'est une maladie de la pauvreté typique.
Alors, on reste sur les informations de base hein, pour bien comprendre, c'est essentiel. La transmission de la typhoïde, si on veut se protéger de la typhoïde, il faut savoir comment on se la transmet, comment on l'attrape justement, par les mains, par l'eau, comment?
Oui, c'est une maladie, comme toutes ces maladies, encore une fois, du péril fécal, qui se transmettent par les mains, touchant des objets contaminés par des sels sous une forme ou sous une autre, à un moment ou à un autre. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est bien entendu un petit peu plus de façon distanciée, le fait qu'une eau consommée, par exemple une eau de puits contaminée, soit effectivement contaminée par salmonella, un typhi, et puisse amener la maladie. Donc les processus de contamination sont oraux, pour l'essentiel, que ce soit par contamination directe, par contamination d'aliments et par contamination de l'eau.
Alors, les symptômes qui peuvent faire penser ou qui doivent faire penser à une fièvre typhoïde?
Les symptômes, ils sont au fond, au début de la maladie, pas très spécifiques. Hein. C'est la fièvre, des maux de tête, et dans des régions du sud. Fièvre montante, ça peut être des tas de maladies, ça peut être le paludisme, ça peut être des tas de choses. Donc les symptômes sont pas très spécifiques. Et il faut généralement attendre au moins plus d'une semaine pour que s'installe la phase d'état de la maladie avec ses symptômes relativement riches et qu'un médecin habitué à cette pathologie peut reconnaître.
Mais on passe alors à une forme plus intestinale, on va dire, avec des douleurs abdominales.
On a à ce stade-là effectivement deux éléments qui se sont constitués. C'est cette phase intestinale avec au fond une contamination du tube digestif et des organes lymphoïdes du système immunitaire associés au tube digestif, donc des pathologies intestinales, pas aussi violentes que le choléra ou la dysenterie. Mmh. Souvent, les gens sont même constipés, paradoxalement. Et puis, en même temps, à partir de ce foyer intestinal et de ces cellules immunitaires contaminées par la bactérie, ce qu'on appelle cette septicémie, c'est-à-dire cette bactérie qui part dans la circulation, qui va ensemencer d'autres organes et qui va donner lieu à la richesse symptomatique, en particulier à ce fameux tuphos, c'est-à-dire cet état stuporeux quand les personnes sont vraiment dans une forme avancée et grave de la maladie.
C'est un abattement complet, on est sonné.
Oh, c'est plus qu'un abattement, c'est un semi-coma, avec des mouvements très particulier, mais tout ça, c'est une sémiologie, comme on dit en médecine, des symptômes qui sont dans les livres de médecine. On les voit de moins en moins parce que très rapidement, devant une symptomatologie de cette nature, il va y avoir des examens biologiques et on va trouver le micro-organisme éventuellement, même si ça n'est pas toujours positif. Et puis, les gens, d'une manière ou d'une autre, vont recevoir des antibiotiques. C'est toute la différence avec les périodes d'avant les antibiotiques ou les maladies.
On a les traitements, c'est important
de
le dire.
Extrêmement. Alors, si on en vient là, bien entendu, il y a un traitement de la fièvre typhoïde par des antibiotiques. C'est un traitement généralement de 10 à 15 jours lorsqu'on a fait le diagnostic qui doit guérir la maladie. Alors, ces antibiotiques, c'est ce qu'on appelle soit les fluoroquinolones, soit les céphalosporines, soit maintenant, c'est à la mode, on en a entendu parler pour le Covid, l'azithromycine, mais globalement, sous la réserve de résistance dans certaines régions, on a toujours un traitement antibiotique efficace pour la fièvre typhoïde.
Mais c'est une maladie bizarre parce qu'on vient de dire qu'il y a beaucoup de symptômes, mais il y a des personnes qui, elles, vont porter la maladie sans avoir ces symptômes. Et autre bizarrerie, elles peuvent rester contaminantes sur une longue période. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ?
Absolument. Il y a quelque chose de très particulier dans la fièvre typhoïde, c'est que environ, c'est pas des chiffres importants, c'est 5% sur les statistiques de personnes qui ont fait la fièvre typhoïde, même de personnes qui ont été traitées efficacement par les antibiotiques et dont les symptômes ont disparu et peuvent paraître guéries, restent ce qu'on appelle porteuses asymptomatiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans leurs selles, on retrouve, pas nécessairement systématiquement, mais à des intervalles donnés, la souche qui pousse. Et on pense de plus en plus que le réservoir, c'est la vésicule biliaire. C'est-à-dire que la bactérie a une capacité de se reproduire parce qu'elle aime bien l'environnement de la bile comme facteur de croissance et elle y pousse sous forme de ce qu'on appelle un biofilm, c'est-à-dire une zone où elle est dans une espèce de gang de sucre qui la protège, y compris des antibiotiques. Et donc elle va vivre là, en équilibre à peu près finalement amical avec le sujet infecté, d'où cette possibilité d'ensemencement régulier. C'est pas nécessairement un drame pour les patients et il faut à un moment leur dire qu'il faut arrêter les antibiotiques parce que de toute façon ça ne marche plus à ce stade-là. Faut simplement leur dire qu'ils sont contaminants.
Changement de comportement.
Potentiellement, qu'il faut qu'ils fassent très attention aux mesures d'hygiène, qu'il faut qu'ils mettent de l'eau de Javel dans leur toilette, qu'il faut qu'ils se lavent les mains. Au fond, des choses qui sont en période de Covid relativement, même si le mode de contamination n'est pas le même, recommandable de façon systématique, oui. Mais c'est quelque chose de très important, car dans certaines situations, historiquement, ces porteurs asymptomatiques ont vraiment été la cause d'épidémie.
Alors, professeur Sansonetti, on a vu qu'il y a un certain nombre des symptômes qui sont communs avec d'autres maladies, surtout dans ces régions tropicales où il y a des régions, des problèmes d'infrastructures et d'assainissement. Est-ce qu'il faut passer par le test, justement, pour distinguer une fièvre typhoïde, par exemple, du choléra ?
C'est essentiel. Alors, bon, Le choléra, c'est autre chose. Le choléra, c'est une diarrhée profuse.
Là, les symptômes ne laissent pas vraiment...
Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de fièvre dans le choléra. Il n'y a pas du tout la symptomatologie que vous trouvez dans la fièvre typhoïde.
On parle trivialement, les personnes se vident. C'est vraiment le signe. Et là, il ne faut pas hésiter. C'est une urgence absolue.
C'est la réhydratation massive, soit par voie orale, soit par perfusion. Mais je pense qu'on ne passe pas à côté du choléra... Alors, la clinique est claire.
Peut-être le PALU, on a un auditeur du Congo-Brazzaville, Herman, il s'interroge justement, point commun entre PALU et typhoïde, céphale et fièvre, comment les distinguer?
C'est une très bonne question, c'est une question très importante, surtout quand vous imaginez que vous êtes sur le terrain, dans une zone éventuellement sahélienne, où l'infrastructure médicale est limitée. Qu'est-ce qu'on fait quand on a, en particulier, et c'est un cas qui se pose de façon dramatique chez les tout-petits, chez les enfants de 1 an, 2 ans, disons moins de 5 ans. Ces enfants n'ont pas l'efflorescence de symptômes de la fièvre typhoïde. Ils ont simplement une fièvre violente et un mauvais état général. Et dans ce cas-là, ça peut être un PALU, ça peut être une fièvre typhoïde, ça peut être une pneumonie, ça peut être des tas de choses. Et donc, ce sur quoi on insiste beaucoup à l'heure actuelle, c'est que la clinique, c'est une bonne chose, mais l'important, c'est d'avoir une biologie facile au chevet du patient, disponible. Et il y a beaucoup de travaux en cours à l'heure actuelle sur le fait de mettre au point très rapidement ce qu'on appelle ces point of care systèmes qui permettent de diagnostiquer au chevet de l'enfant la maladie.
Ce qui se fait avec le PALU.
Alors ça se fait avec le PALU, très bien, on traite. Si l'enfant reste fébrile, l'idéal serait de pouvoir avoir les mêmes tests pour la typhoïde, par exemple, immédiat, sachant que ça reste encore un petit peu difficile. Et c'est un gros problème. J'insiste sur le problématique pédiatrique, parce que c'est là véritablement que se situe en particulier la mortalité.
Beaucoup d'enfants meurent de la typhoïde. C'est aux alentours de 60-70% de la mortalité. C'est ce qu'il y a dans les chiffres de l'OMS. Tout à l'heure, vous parliez justement de l'arme pour vaincre la typhoïde, en partie, à part l'assainissement, l'hygiène. Les antibiotiques, on parle beaucoup de la résistance aux antibiotiques. Ouais. Est-ce que c'est vrai aussi pour la typhoïde? Est-ce qu'il y a des moments où le médecin dit ben, « j'ai plus de molécules, j'ai plus de ressources, j'ai plus de médicaments »
Ça n'est pas encore là, heureusement, mais vous savez que la vague d'antibiorésistance progresse assez rapidement à l'heure actuelle. Et on peut imaginer qu'elle touche, Salmonella typhi n'a pas de raison particulière de ne pas être touchée par la résistance. Et dans certaines régions du monde, en particulier en Asie du Sud, on commence à voir des souches qui sont résistantes aux antibiotiques qu'on a cités plus tôt, c'est-à-dire au fluoroquinolone, éventuellement au céphalosporine. Et il reste dans ce cas-là un troisième molécule qui est par exemple l'azithromycine. Il y a encore des alternatives, mais le jour où cette troisième alternative, si je puis dire, va disparaître, c'est un peu, on a fermé les trois lumières et c'est terminé.
C'est pour ça qu'il faut relancer la recherche aussi sur les antibiotiques.
C'est pour ça qu'il faut relancer la recherche sur les antibiotiques, avec énormément de difficultés, ce serait une autre émission.
On y a déjà consacré des émissions, on en refera.
C'est pour ça aussi que le vaccin, dans les zones qui sont à risque, reste l'option la plus logique.
Alors le vaccin, justement, vous m'aidez à faire la transition. Des vaccins existent. Pourtant, Youssouf, il vit dans la zone sahélienne. Il nous a demandé pourquoi ce vaccin n'est pas généralisé, vulgarisé, en tout cas porté à la connaissance de tous, comme celui, par exemple, de la polio ou pour prévenir la tuberculose. Par exemple, Youssouf, il le reconnaît. Lui, il ne sait pas dans quelles conditions se fait vacciner.
Il a tout à fait raison. Effectivement, l'OMS d'ailleurs s'en est ému, mais s'en est ému depuis plusieurs années. Et malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé jusqu'à présent. Les vaccins, il en existe. Il y a ce qu'on appelle un vaccin vivant atténué, mais qui est relativement peu utilisé par la bouche, donné oralement. Il y a un vaccin qui s'appelle polysaccharidique. C'est-à-dire, en fait, ce microbe, Salmonella typhi, dans sa capacité d'être virulent, a une capsule de sucre complexe. Et cette capsule, en fait, est la cible éventuelle d'anticorps qui vont protéger contre la fièvre typhoïde. Donc il suffit de purifier correctement cette capsule de Salmonella typhi et on fait un vaccin. Et en tout cas, chez les enfants de plus de 2 ans et chez l'adulte, ça marche.
Et il y a du nouveau pour les bébés.
Et pour les bébés, il y a du nouveau parce que, comme pour la vaccination contre le pneumocoque, contre le méningocoque, contre Haemophilus influenzae, il y a ce qu'on appelle ces vaccins conjugués où on accroche ces sucres à une molécule, une protéine porteuse qui fait que ça démultiplie la réponse immunitaire qui est encore relativement peu mature chez le tout petit.
Et est-ce qu'on a, professeur, des grandes campagnes internationales qui ciblent les zones concernées, les zones endémiques justement, pour essayer de venir à bout de cette typhoïde?
Disons qu'il y a eu des études cliniques qui ont montré, en particulier chez les très jeunes, chez les moins de 2 ans, que le vaccin conjugué marchait très bien avec une immunité prolongée de plusieurs années, probablement au moins 5 ans. Mais de grandes campagnes de vaccination antityphoïdique avec un support international structuré, on n'a pas encore vu. Il y a eu des campagnes menées nationalement sur des décisions.
Vous venez de pointer quelque chose de très important, c'est que la durée d'efficacité de ce vaccin, elle est limitée dans le temps beaucoup plus que pour d'autres maladies. Là, on est sur quoi, 3-5 ans ?
Oui, mais c'est déjà pas mal.
Ah non, mais c'est sûr, mais ça veut dire qu'il faut penser à le renouveler et débloquer les moyens pour les campagnes.
Oui et non. Si déjà on arrive à se fixer cet objectif-là, ce serait bien. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la perte d'immunité, elle est jamais totale. Ce qui fait que les personnes, si elles sont réexposées à Salmonella typhi, vont probablement faire des formes moins graves, qui vont passer même peut-être inaperçues, et qui vont contribuer à restimuler l'immunité. Donc je pense qu'il faut...
Il faut commencer par le commencement.
À
tout
vouloir
à fait.
Trop bien faire, on finit par...
Déjà une bonne campagne pour commencer, tout et après fait. On avise. Vous restez avec nous, professeur Sansonetti, on va se retrouver après une petite pause musicale avec Koffi. Fille, ce titre Toast. C'était Koffi, la Jamaïque sur RFI, priorité santé, fièvre typhoïde, transmission, prévention, vaccin, traitement. Décrypté par notre invité en plateau, professeur Philippe Sansonetti, professeur à l'Institut Pasteur, microbiologiste, auteur du livre Vaccin au pluriel publié chez Odile Jacob, dans lequel on apprend, parmi beaucoup de choses, que la Grande Guerre, la guerre de 14-18, cette première guerre mondiale en France, a constitué une étape clé dans la lutte contre la typhoïde. Parce que l'histoire et les maladies, ça va ensemble, et parfois, des drames de l'histoire contribuent à une amélioration sur le plan de la santé mondiale.
Oui, l'histoire de la fièvre typhoïde en 1914, qui a failli arrêter la guerre par la quantité de patients, et puis surtout qui a permis de réaliser une chose importante, c'est que la fièvre typhoïde, on n'en a pas parlé, mais lorsqu'elle suivait son cours naturel sans antibiotiques, donnait lieu à ce qu'on appelle une cachexie, c'est-à-dire que les gens étaient dans un état de dénutrition très très avancé, et il avait même fallu créer des centres de renutrition à l'arrière du front pour pouvoir, parce que l'objectif c'était de renvoyer les jeunes sur le front, pour les renutrir, et certains, 6 mois, 1 an, étaient dans un état de faiblesse absolument invraisemblable. Ce qui a amené à faire cette grande campagne de vaccination des troupes, à la fois du côté français et du côté allemand. En quelques mois, on a vacciné plusieurs millions de soldats. Une étude non contrôlée, bien entendu, puisque tout le monde était vacciné. Fin 1915, l'épidémie typhoïde était terminée, et c'était probablement dû à cette vaccination massive. Problème étant que le vaccin était très mal toléré à l'époque, pas toujours parfaitement standardisé. Côté français, il était fabriqué par l'Institut Pasteur et par le Val-de-Grâce. Il y avait 2 vaccins différents. Et ça a donné quelque part quand même une image un petit peu négative de la vaccination. Et on voyait même dans les tranchées les jeunes soldats qui avaient quasiment plus peur de la semaine à venir où ils savaient qu'on allait venir les vacciner que des opérations militaires. Donc, il y a eu quelque chose autour. Ça aussi dit beaucoup sur l'état des nations par rapport aux maladies infectieuses et à la prévention. La vaccination contre la typhoïde était obligatoire dans les armées depuis mars 1914, mais très peu des soldats étaient vaccinés, à part les troupes d'active. Donc on n'a pas vacciné les nouveaux engagés, et donc ils étaient des proies évidentes. C'était plus par manque d'enthousiasme pour la situation. Côté allemand, pareil, non vacciné, mais pour des raisons très rationnelles. C'est-à-dire que Robert Koch avait dit qu'avec les mesures d'hygiène bien appliquées, la typhoïde était contrôlable, sauf que dans des conditions de guerre, c'était pas tout à fait la même situation. Et il y a eu de chaque côté des dizaines de milliers de morts, parce que le taux de mortalité était très élevé, hein, 12% côté français en particulier. Et curieusement, les Anglais étaient vaccinés et ont eu une centaine de décès liés à la typhoïde sur le front. Donc on voit les différences de comportement,
les approches et les chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
Voilà.
On va tout de suite partir pour le Burundi. Vous continuez à intervenir quand vous le souhaitez, professeur Sansonetti.
RFI à Bujumbura, 96.1 FM.
Bonjour professeur Théodore Nyongabo.
Caroline Paré.
Professeur de médecine interne, maladie infectieuse à la faculté de médecine de Bujumbura au CHU Kamenge. On va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé qui ont des questions à vous poser, professeur. Mais pour commencer, la fréquence de cette infection dans votre pays, le Burundi, Bujumbura, est-ce que cette typhoïde constitue une cause fréquente d'hospitalisation ?
Il est difficile d'avoir une prévalence exacte de la typhoïde pour 3 raisons. La première raison, c'est que dans nos structures de soins, les examens de diagnostic sont excessivement difficiles, la culture de sang. Et d'autre part, on n'a pas un système de surveillance systématique de la maladie à travers le pays. Et enfin, il y a un troisième élément très important, c'est la prise des antibiotiques largement dans la population pour toute fièvre. Mmh. Et ces 3 éléments expliquent finalement qu'on n'a pas vraiment une prévalence réelle, mais ce qu'on peut dire, c'est que la fièvre typhoïde, malgré tout, est certainement une des causes de fièvre.
Une cause de fièvre majeure, j'imagine également,
voilà.
Avec une atteinte comme le paludisme.
Voilà, après le paludisme, la tuberculose, ça doit être certainement une cause non négligeable.
Le trio particulièrement dangereux de ces maladies infectieuses. On va prendre tout de suite la direction du Bénin pour retrouver une question d'auditeur. C'est vous, Mégan Valère, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez une question à poser sur la typhoïde et qu'est-ce que vous avez fait face à cette maladie.
Bon, merci beaucoup. Et j'ai une question à poser sur cette maladie parce que je suis souffrant de cette maladie actuellement. Il y a de cela un mois, le 28 juillet passé, j'ai été détecté de la fièvre typhoïde. Mmh. Et donc c'est bien qu'il y a la présence d'arguments sérologiques en faveur d'une Salmonella A, Salmonella Tifi et Salmonella Paratifi B en phase d'état. Mmh. Et donc du coup j'ai commencé à prendre des médicaments.
Des antibiotiques
des antibiotiques.
Sur quelle période vous avez pris ces médicaments, Mégan Valère?
J'ai pris ces médicaments sur trois semaines comme ça. Et ça ne se calme pas. Alors, je vous parle même, j'ai encore des douleurs abdominales et ça me fait mal. Voilà.
Professeur Nyongyabo, qu'est-ce que vous pouvez dire à Megan Valère qui a encore des symptômes après la fin de son traitement par antibiotiques et qui se demande finalement, est-ce que la maladie est passée?
Il y a deux questions. La première question, il dit qu'on a fait des analyses. Comme je l'ai dit, c'est un diagnostic qui est très difficile. Généralement, dans nos régions, il y a ce qu'on appelle la sérologie vidale qui est souvent utilisée. Qui est vraiment un mauvais test de diagnostic, qui donne beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs, et qui induit souvent en erreur et les malades et les soignants. Idéalement, il faudrait faire les éléments de confirmation, comme la culture du sang. Ça, c'est l'élément qui permet de savoir si vraiment c'est de la fièvre typhoïde.
Ce que vous nous dites, professeur, excusez-moi de vous couper, parce qu'on a un autre auditeur, Béni Abidjan, qui dit justement que cet examen vidal, il se demande si c'est fiable, c'est qu'il vaut mieux une coproculture, c'est-à-dire l'analyse des selles du patient pour voir ce qu'il y a précisément dedans, c'est ça?
Il y a deux examens, c'est la culture du sang qui est l'examen standard et éventuellement la culture des selles, tout en sachant que la culture de selles est souvent négative par rapport à la culture de sang.
Donc la culture de sang est meilleure. Ça veut dire qu'il faut faire une prise de sang et attendre.
Une prise de sang, on met en culture et vous attendez 48 heures, on vous donne le résultat.
D'accord, donc il faut un petit peu plus de temps pour avoir un diagnostic certain, c'est bien ça?
Oui. La deuxième partie de la question, c'est le fait qu'il y a des douleurs, des signes. La fièvre typhoïde, comme je le dis, c'est une maladie de diagnostic excessivement difficile, qui peut être confondue avec d'autres maladies. Et il est vraiment important d'aller voir le médecin pour qu'il fasse une évaluation, pour savoir si c'est réellement la fièvre typhoïde ou pas. Et dans tous les cas, la confirmation du fait que la maladie persiste encore ne peut pas être par le test sérologique, comme j'ai dit, dans la mesure où le test sérologique est un mauvais test, ne peut l'être que par la culture de sang ou éventuellement par la culture des urines, plutôt des selles.
Des selles. Megan Valère, est-ce que vous avez les moyens, tout simplement les moyens financiers, les moyens matériels de faire ces examens ou pas? Il ne faut pas être gêné de répondre parce que c'est vraiment une question qui se pose. Quand on n'a pas d'argent pour se soigner, ça arrive à beaucoup, beaucoup de monde, hélas. Mais c'est quelque chose qui arrive.
C'est justement pour ça que j'ai dû me rebattre sur une recette traditionnelle. Parce que je n'ai pas les moyens, donc j'ai commencé à prendre du crin-crin plus du citron. Une recette généralement utilisée chez nous et qui serait efficace. Voilà. Donc, je suis en train de prendre ça pour le moment. Mais ça ne cesse pas quand même.
Ouais, c'est de l'automédication. Professeur Nyongyabo, qu'est-ce que vous en pensez? On a un autre auditeur qui nous a posé une question du même ordre. Lui, qui prend des feuilles de bambou bouillies. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que ce sont des médicaments, pour la plupart, qui n'ont pas été évalués. Donc, il est difficile pouvoir faire un jugement. Mais par contre, le professeur Philippe Sansonetti a parlé des médicaments qu'on utilise, que sont les fluoquinolones, dont le coût est relativement abordable. Je vois par exemple ici, si je regarde sur notre marché, une cure de fluoquinolone, d'une certaine fluoquinolone qui est la ciprofloxacine, tourne autour de 500 centimes, de 50 centimes d'euros. Donc moins d'un euro par cure. Ça fait partie. C'est vrai que c'est déjà cette somme, mais c'est plus ou moins abordable.
Mais pour Megan Valère, notre auditeur, le problème, c'est pas vraiment le coût du traitement, c'est plus le coût des examens. Et c'est très fréquent que ce soit ces examens qui soient particulièrement inaccessibles. En tout cas, Megan Valère, on vous dit merci beaucoup. Merci pour votre question. On va traverser la frontière. On était au Bénin. On va passer au Togo pour retrouver Silver. Silver, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors vous êtes à Lomé, expliquez-nous ce qui vous est arrivé exactement.
Ok, d'accord. Alors très rapidement, il y a de cela 4 ans que j'ai souffert de la fièvre typhoïde. Tout a commencé avec la fièvre en fait. Donc j'ai essayé de suivre des traitements à la maison durant une semaine, mais tout s'est aggravé. Et donc à la fin, j'avais des douleurs d'articulation, je n'arrivais plus à faire aucun geste. Et je suis parti à l'hôpital finalement, un soir où j'avais une fièvre à 39 degrés. Et donc, c'est le lendemain, en fait, qu'on m'a diagnostiqué la fièvre typhoïde. Donc, j'ai fait des traitements sur une semaine environ. Je suis rentré après une semaine d'hospitalisation. Après, il s'est fait que après j'ai toujours des douleurs abdominaux par moment, dans l'intervalle de 1 ou 2 mois. Et mais je ne suis plus retourné à l'hôpital. J'essaie de prendre quelques antibiotiques et après ça passe en fait. Du coup, j'ai des questions puisque j'aimerais savoir si en fait je suis complètement guéri, immunisé contre la maladie ou il faut que je consulte à nouveau.
C'est vraiment une problématique qui revient, hein, professeur Nyongabo, des personnes qui ont eu des symptômes proches de la typhoïde, qui ont été traitées par antibiotiques, mais qui aujourd'hui ne sont pas rassurées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Silver ?
Ben, le premier élément, il est vrai que si on fait un traitement antibiotique adapté, la guérison est presque totale. Mais toute la question, il est là. Qu'est-ce qu'il a reçu comme traitement? Est-ce que l'antibiotique qu'il a pris, il était efficace ou pas? Est-ce qu'il a pris pendant une durée,
suffisante?
Donc ça, c'est déjà la première thématique qu'il faut régler. Le type d'antibiotique qu'il faut donner. Et, mais également la durée de l'antibiothérapie. C'est là où, malgré tout, on a vraiment besoin de savoir dans nos régions quels sont les antibiotiques qui marchent pour ce type de salmonelle qu'il faudrait proposer de façon large aux personnes, même s'il ne faut pas faire une mémoculture chaque fois. Parce que si on a déjà une cartographie régionale ou locale des salmonelles, là, on peut se passer de l'antidiogramme, de la culture de l'antidiogramme, mais au moins avoir cette cartographie. La deuxième chose qui est également importante à savoir, c'est la recontamination. Là, ce n'est pas une maladie qui immunise à 100%. Il y a des recontaminations possibles si les conditions de contamination restent. Et comme mon collègue l'avait dit, la question de l'hygiène est une question fondamentale dans nos régions qui explique probablement l'importance des réinfections. Et le troisième élément, c'est malgré tout l'existence d'autres causes de fièvre avec douleur abdominale. On a parlé du paludisme, mais il y a une infection qui est également fréquente. Ce sont les shigelloses qui entraînent des dysenteries bacillaires avec des douleurs, avec une fièvre. Donc pour dire que quelque part, il y a énormément d'autres maladies qui peuvent entraîner ce genre de symptômes. Et je reviens au même constat, d'où l'intérêt de consulter un médecin pour une évaluation étiologique à chaque fois qu'on a ce genre de symptômes. Il ne faut pas à chaque fois dire j'ai attrapé la typhoïde, c'est la typhoïde qui revient. Je pense qu'il faut chaque fois faire une évaluation parce qu'on peut faire une typhoïde aujourd'hui et une tuberculose le lendemain ou un paludisme sur le lendemain.
Vous avez entendu, Silver, nous, quand on a préparé l'émission avec vous, vous nous avez confié, je ne retourne pas en consultation parce que j'ai peur. Alors, vous avez entendu le professeur qui a pris du temps pour vous expliquer. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ce qu'il faut, c'est retourner voir le médecin, expliquer exactement vos symptômes et qu'il recherche avec vous pourquoi vous continuez d'avoir des douleurs. Parce que ce n'est pas forcément une typhoïde, ça peut être autre chose. Et ça peut même être autre chose qui n'est pas si grave et qui peut se régler assez facilement. Donc, c'est important d'aller consulter. Qu'est-ce que vous en pensez, Silver ?
Pour la consultation, je pense que je vais faire l'effort quand même. En fait, ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est que ça fait banalement 6 mois en fait que je n'ai plus les symptômes. En fait, j'ai essayé d'adopter une hygiène de vie un peu stricte en fait. J'essaie de faire très très attention à tout ce que je mange. Et donc depuis 6 mois, je n'ai plus tellement les symptômes.
Mais par contre, vous avez peur, c'est ça ? Vous avez des craintes ?
Oui, j'ai des craintes parce que à chaque fois, tout d'abord, en fait, il y a ma sœur qui avait déjà contracté la maladie quand elle était petite. Mais elle, autre, c'était déjà à un niveau très élevé parce qu'on lui a dit, si jamais elle continuait pas à prendre des trucs lourds, il y aurait ses intestins qui seraient abîmés et elle serait morte. Donc déjà là, il y a cette peur, quand je pense encore à ça, il y a cette peur-là qui revient. Donc en fait, la question que j'ai oublié de poser encore au docteur, c'est en fait quand...
Allez-y rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui. Quand vous parlez de vaccin, à quel moment en fait il faudrait faire le vaccin ?
Professeur Sansonetti, on va dire dès que possible ?
Bah, le vaccin, oui, c'est l'idéal, ce serait de vacciner les jeunes enfants et puis éventuellement de faire des rappels plus tard. Mais si
Silver n'a jamais été vacciné, il peut aller se faire vacciner dès demain.
Il peut aller se faire vacciner dès demain.
Voilà, donc c'est la meilleure solution. Si vous avez peur de cette maladie, allez vous faire vacciner. Comme ça, vous serez vraiment, vraiment à l'abri. On vous remercie infiniment de cet appel, Silver. On prend un dernier auditeur en ligne de Bamako. C'est Diakari Dia. Bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Ben, ravi de vous parler. Racontez-nous, vous, dans quelles conditions vous avez été en contact avec la fièvre typhoïde.
Ok, bon, il y a 2 ans, j'ai été affecté dans une région particulièrement humide par rapport à Bamako. Mm-hmm. C'est là-bas que j'ai attrapé la fièvre typhoïde. Bon, dès lors, quand j'ai la courbature, les maux de tête, quand je me rends à l'hôpital, à chaque analyse, on me prescrit Gouttepès et Vidal. Donc, à chaque fois, on trouve que Vidal est positif.
Donc, c'est cela. Donc, Gouttepès, Palu, Vidal, oui. Typhoïde. Et à chaque fois, ouais. Le test Vidal revient positif. Donc, les médecins soupçonnent la présence d'une typhoïde. Et donc, quelle voilà. est votre question?
Bon, la question, c'est par rapport à est-ce que ce Vidal-là veut dire directement que j'ai une fièvre typhoïde?
Bah, on y a un petit peu répondu tout à l'heure, hein, professeur Nyongabo. Vous avez dit qu'il y avait mieux que le Vidal pour le confirmer, c'est ça?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut suggérer à cet auditeur Diakari Dia qui, justement, se révèle positif quand il fait des vaccins? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour, justement, qu'il puisse se soigner correctement?
La première chose, il faudrait proscrire la sérologie vidale parce que ça induit en erreur beaucoup de malades mm-hmm. avec des traitements qui sont donnés qui ne sont pas en fait nécessaires mm-hmm. ou utiles dans ce contexte. Et avec souvent un deuxième risque, c'est de passer à côté du vrai diagnostic.
D'accord.
Parce que pour moi, il faudrait proscrire son test. Et s'il fallait faire, et puis le médecin, je veux dire, il y a d'autres signes qui peuvent orienter vers une fièvre typhoïde à défaut d'hémoculture, donc on peut occulter, mais ne faites plus une sérologie vidale et sera positif pour un oui ou pour un non, mm-hmm. que ce soit pour une maladie infectieuse ou non infectieuse. Donc déjà, cesser de le faire, c'est déjà une très bonne chose mm-hmm. et demander au médecin de voir à quoi correspondent vos symptômes.
Les symptômes, puisqu'il a été positif à la typhoïde là par un prélèvement de sel, il s'est traité et maintenant vous avez des nouveaux symptômes, Diakari Dia, hein, comme le dit une nouvelle fois le professeur, le mieux c'est d'aller consulter. Une autre question, professeur, et on vous remercie beaucoup hein, de cet appel de Bamako, bien sûr. Une autre question, professeur, sur la santé maternelle, question de Moustapha, si une maman a cette maladie, et comment est-ce qu'elle peut faire pour protéger son bébé? Est-ce qu'il y a un risque de transmission dans le lait? Et André en RDC qui demande est-ce qu'il faut une prise en charge spéciale de la typhoïde chez la femme enceinte?
Pour la première question, en termes de transmission, c'est une maladie qui se transmet par la mauvaise hygiène. Donc, quelque part, il faut conseiller les mesures classiques d'hygiène et à ce moment-là, il n'y a pas de risque.
Lavage de main,
la question de latrine, mm-hmm. la question de l'eau propre. C'est vraiment l'hygiène de façon générale. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de risque de transmission chez l'enfant. Mm-hmm. La deuxième chose, il n'y a pas de transmission par le lait maternel.
Donc, c'est très important à dire, très important.
Il n'y a pas de risque, donc il faut continuer à allaiter l'enfant. Et la troisième chose, c'est parmi les antibiotiques dont on vous a parlé, en l'occurrence les céphalosporines, il n'y a pas de risque pour l'enfant ni pour la mère. Donc ce sont des antibiotiques qui peuvent tout à fait être utilisés chez la femme enceinte sans aucun danger, ni pour la mère ni pour l'enfant.
Donc traiter la maman, surtout aussi pour éviter les fièvres, hein, c'est très important pendant la grossesse.
C'est très important.
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, professeur Nyongabo, pour améliorer l'information, la sensibilisation des populations par rapport à cette maladie, précisément?
La première chose, c'est de rappeler que ça reste une maladie du péril fécal mmh. et que les moyens de prévention basiques devaient être largement utilisés. J'en citerai 3 ou 4, c'est l'utilisation de la traînée qui constitue dans certaines régions une problématique assez importante. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est vraiment l'hygiène des mains. Mm-hmm. Et je suis heureux de voir qu'avec le COVID-19, la COVID-19,
ouais, on va voir moins d'infections intestinales cette
absolument,
saison.
Absolument.
C'est une bonne nouvelle.
La troisième chose, c'est l'accès à l'eau potable. Et à défaut de passer bouillir l'eau qu'on utilise. Et la quatrième chose qui a été dite par un de nos c'est l'hygiène des aliments. Pour ceux consommés crus, comme les salades, il faut vraiment une bonne hygiène. Il y a le dernier élément qui a été évoqué tout à l'heure, c'est la vaccination.
Bien sûr.
Donc ça, ça fait partie des choses importantes. Le deuxième point que je voudrais vraiment souligner à ce niveau-là, c'est tout ce qui est fièvre et douleur abdominale ne veut pas dire que c'est
la typhoïde. Oui, attention.
Il y a d'autres maladies. Il y a d'autres maladies.
J'ai autre chose à vous demander. J'ai une question de David. Il nous écoute dans le Nord Kivu. Il dit que lui et ses proches, eh bien, ils boivent l'eau du lac, du lac Kivu, alors qu'on dit que sur place, l'eau du lac est responsable de la typhoïde. Et il vous demande, vous êtes à Bujumbura, vous êtes au Burundi, on est dans la région. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un danger, par exemple? On pointe particulièrement ce lac, mais ça peut être vrai pour beaucoup d'autres rivières sur le continent, en Afrique subsaharienne. Est-ce que ça peut être dangereux de boire l'eau comme l'eau du lac Kivu?
C'est excessivement dangereux. Au moins, c'est de maladies fréquentes dans cette région. La première maladie, c'est le choléra, qui reste endémique et qu'on voit très très bien dans les zones où on boit de l'eau du lac. Et la deuxième maladie, c'est effectivement la fièvre typhoïde. Donc, c'est tout à fait possible. Et d'où l'intérêt de bouillir l'eau. À défaut d'avoir de l'eau potable, bouillir l'eau, ça devrait être quelque chose d'important.
Absolument essentiel. Merci infiniment pour toutes ces réponses très pratiques, très éclairantes, professeur Théodore Diongabo.
J'avais un dernier message pour une minute.
Allez-y.
C'est prohiber l'automédication. Parce que l'automédication utilise souvent des produits inappropriés, à des durées inappropriées et avec un risque de résistance majeure pour beaucoup de germes, dont la typhoïde.
Et particulièrement d'aller chercher les antibiotiques au marché dans des emballages qui ne sont pas reconnus. On va à la pharmacie, on va à l'hôpital. Attention aussi à ces médicaments falsifiés. Merci infiniment, professeur, d'avoir été en ligne avec nous de Bujumbura. On va conclure cet échange avec vous, professeur Sansonetti. Dans votre livre, il y a ce mot, il y a cette phrase qui m'a marquée, parce que c'est vrai. Il y aura toujours des maladies infectieuses. Vous écrivez ça avec un point d'exclamation. Alors au moment justement où notre planète est confrontée à une crise sanitaire sans précédent depuis des décennies, on vient de parler de la typhoïde. Il y a des vaccins, il y a des traitements, il y a des mesures de salubrité publique. Et pourtant, elle est toujours là. Aujourd'hui, on a une nouvelle maladie. On espère un vaccin, on espère des conseils précis pour s'en prémunir. Et on se dit finalement, on a des vieilles maladies dont on n'arrive pas à se débarrasser. Je m'excuse, tout le monde laisse faire. On a une nouvelle maladie, bien sûr, il est trop tôt pour savoir tout de suite. Tout le monde s'énerve. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est intéressant de voir qu'au fond, les maladies avec lesquelles l'espèce humaine a vécu depuis des centaines, voire des milliers d'années, sont finis par s'incruster et finalement procurer moins de stress. Regardez le sida. Bien sûr, maintenant, il y a des traitements.
Et qui fait encore 1 million de morts environ chaque année.
Vous voyez quelle était la réaction, nos réactions par rapport au sida quand il a démarré en Europe au début des années 80. Et aujourd'hui, à la limite, le stress, il y a le stress de la nouveauté quand même, il y a le stress de l'inconnu, il y a le stress de la menace encore difficile à déchiffrer. Donc ça, finalement, c'est quelque chose d'assez compréhensible. Et puis, il y a aussi le fait que ces maladies qui sont des maladies de la pauvreté, qui sont finalement dans des populations démunies, pas toujours très accessibles, stimule pas au fond l'intérêt qu'on pourrait avoir
et appelle des réponses de santé publique très importantes. Il faut conclure, hélas, professeur.
Il faut être volontariste. Il faut une action internationale pour vacciner contre la fièvre typhoïde. C'est la seule façon de se débarrasser, d'éliminer la maladie.
Il faut des politiques de santé. Merci à vous, professeur Philippe Sansonetti, d'avoir répondu à notre invitation. L'activité physique dans Priorité Santé. Tout de suite avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On va parler tout de suite de la méditation en pleine conscience dans le sport. Et on commence par une petite définition. Hein. Alors, c'est quoi précisément cette méditation pleine conscience ?
Voilà, pleine conscience, c'est le fait de porter son attention qui doit être vraiment ancrée dans le temps, dans l'instant présent, de façon calme, lucide, objective. Alors, on a tous eu déjà des expériences comme ça de méditation pleine conscience. C'est à la fois où on est à la fois concentré, relaxé, par exemple devant un beau feu de cheminée, hein, ça peut être, ou alors un beau paysage comme ça, ou
devant la mer.
Devant la mer, ça c'est formidable. Promenade en pleine nature, etc. Ça, c'est véritablement la situation ou l'expérimentation de la pleine conscience. Alors, ça entraîne tout cela, l'esprit à se libérer du flot des pensées quotidiennes, et ça a des bienfaits. Ça a des bienfaits qui sont d'ailleurs de plus en plus utilisés pour soigner certaines pathologies mentales, notamment le stress, parce que en fait, on ressent un véritable calme mental, un calme intérieur, un meilleur contrôle aussi des émotions, et ça permet de prendre justement du recul sur ses émotions, sur ses pensées, et avoir un meilleur discernement sur nos réactions, notamment face aux situations.
Alors, pour la pratique sportive, quels sont les bienfaits de cette méditation ?
Bah, il y a beaucoup d'avantages, parce qu'évidemment, ça permet d'être mieux préparé pour la compétition. C'est vrai qu'il faut entraîner son corps, mais il faut aussi entraîner son esprit si on veut être performant. Et donc, ça peut permettre d'avoir un avantage mental sur les adversaires. D'abord, sur la concentration, c'est-à-dire le fait de se concentrer sur la tâche présente au moment là, à l'instant, ce que l'on est en train de faire. Et en laissant tomber les sources de distraction, les pensées négatives. On sait que les pensées négatives sont particulièrement perturbatrices et peuvent nuire vraiment au succès sportif. Et il faut être concentré sur le jeu, véritablement. Ça permet également de surmonter la douleur, par exemple. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, quelquefois, à l'entraînement, en compétition, et il faut aller chercher les derniers kilomètres si on court un marathon, il faut supporter certaines douleurs lorsque on est en compétition, en combat, ou une fatigue, évidemment, et ça, cette technique de pleine conscience permet de surmonter tout cela. Ça permet d'améliorer le sommeil. Et oui, parce que le fait de combattre l'insomnie, on sait que le fait d'avoir de l'insomnie augmente la prise de poids. Hein. Il y a aussi ça permet de réguler l'humeur également, de mieux dormir. Et donc lutter contre l'insomnie, c'est pouvoir mieux se relaxer et avoir ce meilleur effet. Mieux se relaxer, ça veut dire lutter contre le stress, évidemment. Le stress, c'est bon, bien sûr, pour stimuler, pour la performance, mais à forte dose, ça a un effet aussi néfaste. Donc, il faut savoir gérer son stress, savoir le réduire, diminuer l'anxiété, diminuer la dépression. Et tout cela, donc, ce sont des éléments extrêmement positifs, évidemment, pour le sport de haut niveau.
Alors, docteur Sen, pour bien concilier l'activité sportive et cette méditation, quel conseil ?
Bah, par exemple, en faisant des étirements et une respiration, par exemple, de yoga. Les étirements, c'est très bien parce que ça permet d'étirer les muscles, c'est vrai, mais ça permet aussi à l'esprit de se détendre. Alors, ça peut être en prenant certaines postures, par exemple, comme la salutation au soleil. Voilà, 5 à 10 séries, ce qui doivent être synchronisées avec la respiration. Et la respiration aussi, la respiration yogique, qui est une respiration particulière, assez ample, qui permet justement, elle aussi, d'augmenter la concentration, l'attention et la mémoire, hein, qui peut être pratiquée pendant une dizaine de minutes. Surtout, ce qui est très important, c'est d'être régulier dans sa pratique, parce que on se rend compte que le fait d'entraîner cet esprit, eh bien, vraiment favorise le calme et la méditation, et le but, c'est de le pratiquer à peu près toujours à la même heure, les mêmes jours, pour pouvoir, 10 minutes, ça peut suffire, hein, et cette régularité, justement, va aider l'esprit à pouvoir y venir, et d'ailleurs, beaucoup plus facilement à chaque fois. Et puis, il faut réduire, bien sûr, les toxiques, ou j'ai envie de dire la caféine, l'alcool, les aliments transformés, parce que ça nuit au sommeil, ça trouble l'équilibre, notamment l'équilibre des ions électrolytiques, hein, on dit, et des minéraux. Et puis les aliments transformés sont pleins de produits chimiques, d'agents de conservation qui sont pas très bons. Donc le plus important, c'est de retenir que cette méditation vous nourrit, hein, d'innombrables façons et à plein de niveaux, physique, psychologique, émotionnel. Le tout, c'est d'y croire.
Et de se calmer, de prendre le temps. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont préparée au fil de la scène. Juliette Brault, Stephen Hesley et Didier Cherouz. Demain, vous retrouvez le docteur Catherine Solano. Émission spéciale sexualité.